En 2017, déferlait la vague MeToo. Depuis la prise de parole publique de la comédienne Judith Godrèche, qui a trouvé le courage de dénoncer l'emprise et les violences sexuelles subies de la part du réalisateur Benoît Jacquot, la parole des femmes, mais aussi des hommes, se libère à nouveau sur les violences sexistes et sexuelles. Dans le numéro 4 de notre revue La Vie ouvrière, nous avions voulu tirer le bilan de cette mobilisation mondiale lancée sous le hashtag MeToo pour comprendre si, en plus de changer les regards, cette révolution féministe avait permis de réelles avancées dans nos vies intimes, dans nos médias, nos institutions et aussi au travail, là où les femmes peuvent espérer gagner leur indépendance. Je suis Cyrielle Blair et dans cette nouvelle édition du podcast « Mon travail, ma bataille », je fais le bilan aux côtés de militantes et de chercheuses qui nous expliquent pourquoi il faut se battre encore contre les violences sexistes et sexuelles et l'importance de continuer à libérer la parole. Pour démarrer ce podcast, je vous propose d'écouter Elodie Pinel, membre de MeToo Media, une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles créée suite à la première plainte pour viol en 2021 contre le présentateur télé Patrick Poivre d'Arvor.
Qui a été révélé, c'est déjà un comportement qui ne se réduit pas au seul PPDA, à savoir un comportement là homme-femme, de domination et de prédation même, avec une espèce de certitude que les jeunes femmes, en l'occurrence, étaient à sa disposition et étaient susceptible de trouver ça, d'accepter ces propositions, en l'occurrence sexuelles. Donc déjà, c'est un certain état d'esprit qui touche plus le domaine du genre, quoi, les relations hommes-femmes. Au-delà de ça, ça a révélé que ce qui, en réalité, relève de l'agression, du harcèlement, voire du viol, en fonction des cas, a été totalement banalisé et minimisé par les gens qui y ont assisté. Sans doute aussi avec une part de déni pour certains qui auraient été en capacité de savoir ce qui se passait vraiment, mais qui n'ont pas cherché. Et donc, cette espèce de complicité, de tolérance, mauvaise foi, pour maintenir un système de pouvoir, de réseau. Moi, je pense toujours à la Boétie quand je pense à ça, le fait que les gens se tiennent les uns les autres et que... qu'il faut continuer à garder son petit pouvoir parce qu'on en a soi-même beaucoup bavé pour y arriver et que on est prêt à s'asseoir sur un certain nombre de principes éthiques pour ça, quoi. Donc c'est pas une surprise parce qu'on sait bien que ça fonctionne comme ça, mais quand on a le nez dessus et qu'on voit jusqu'où ça peut aller, ça fait froid dans le dos. Le fait qu'il y ait une jeune fille pratiquement par soir dans les bureaux, sous l'œil des vigiles, sous l'œil des patrons, sous l'œil de toute l'équipe en fait, hein, des assistantes, etc., c'est ce côté un petit peu une machine qui dévore des proies au fur et à mesure, enfin, pour prendre une métaphore, et on consent au sacrifice, parce qu'en fait, on est finalement dans une logique de sacrifice de manière générale dans ces milieux.
À ce jour, 45 femmes se sont manifestées à la justice contre PPDA, et 3 accusations de viol et d'agression sexuelle font actuellement l'objet d'une enquête.
Puis il y a un réseau de pouvoir aussi dans les médias qui est lié au pouvoir symbolique qu'a chaque personne. Quand on pense à PPDA, il avait évidemment un réseau dans l'édition, un réseau à la télévision qui faisait que il pouvait interpeller des collègues à lui pour être protégé, pour être couvert. Mais il y a aussi tout simplement un système qui fait que cette personne est quelqu'un sur qui on a misé pendant longtemps, qui rapporte de l'argent. Donc on va pas le sortir du jeu comme ça. On a trop investi sur tel ou tel, un peu comme un cheval, quoi. Et donc il y a trop d'enjeux financiers. C'est ce qu'on voit aussi dans les affaires là, par exemple sur les Amandiers, avec l'acteur, je crois qu'il s'appelle Sofiane Benacer. C'est énormément d'argent un film. Donc évidemment que quand il y a des affaires qui éclatent, là en l'occurrence, il s'avère qu'elles étaient connues dès le tournage, mais si elles sont connues après coup, tout va être fait pour éviter qu'il y ait scandale, pour éviter que ça desserve un film dont, ou un contenu culturel quel qu'il soit, pour essayer de rentrer dans son investissement. C'est un enjeu presque cynique, froid, de comptable, quoi. Se dire, on a plus à perdre financièrement à séparer de telles personnes que de la stagiaire, quoi. C'est des lieux de pouvoir, de la même manière que l'université, que les grandes entreprises, enfin, je veux dire, que la politique, évidemment. Et la logique, c'est souvent celle du chantage au prestige pour acheter le silence, soit des complices, des témoins ou des victimes. Le chantage où bah, faut déjà être content ou content d'être là, donc il ne faut pas trop la ramener. Il faut accepter un certain nombre de choses pour espérer faire partie des gens qui vont tout simplement être enfin, être rémunérés pour leur travail ou être reconnus pour leurs compétences, quoi. Et d'ailleurs, on observe que souvent les victimes sont des gens qui, eux ou elles, n'ont pas ce pouvoir symbolique, n'ont pas ce pouvoir financier, ce réseau, et ne représentent pas, en fait, pas des gens sur qui on a parié. Donc, c'est des gens qu'on peut sacrifier assez facilement. Ce que ça a révélé aussi, c'est que, n'y avait pas de fatalité et que cette omerta pouvait être brisée. Brisée par les gens qui, normalement, sont désignés comme les plus faibles. Et donc, la médiatisation, c'est un premier pas, mais c'est pas la fin, quoi. C'est juste le début d'une action.
Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble, faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets.
Judith Godrèche, lors de la cérémonie des Césars, en mars 2024.
Juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans.
Ce qui est certain, c'est que beaucoup de plateaux de théâtre et de cinéma sont des scènes de crime.
Bérénice Hamidi, enseignante chercheuse en politique des arts du spectacle.
La scène torride de Basic Instinct avec Sharon Stone, elle a expliqué après qu'elle n'était pas au courant, donc ça s'est fait aussi sans son consentement. La culture du viol, en fait, c'est le fait de normaliser et d'érotiser des formes de violence dans les relations sexuelles. La plupart du temps, ni les personnes qui sont victimes, ni les personnes qui commettent les actes n'ont conscience qu'elles enfreignent la loi à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'après-coup, parfois sur le moment et ensuite dans l'après-coup, les victimes, elles ressentent le traumatisme. Mais parfois même, c'est pas parce qu'elles ressentent le traumatisme qu'elles savent que la loi a été transgressée, qu'elles ont été victimes d'un crime. Elles se sentent mal, c'est tout.
Ne croyez pas que je vous parle de mon passé qui ne passe pas. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leur témoignage en 4 jours. C'est aussi l'avenir de tous ceux qui n'ont pas encore eu la force de devenir leurs propres témoins. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru?
En ce moment, enfin, se pose la question de la qualification des actes. Le décalage monstrueux, à tous les sens du terme, qu'il y a entre la façon dont on se représente toute une série de choses qui ont trait à la sexualité et ce qu'elles sont, pas pour les féministes enragées, mais ce qu'elles sont pour notre droit, au regard de la loi française du 21e siècle, on ne peut qu'être frappé par l'écart massif. Par exemple, quand on dit main baladeuse, c'est charmant presque, sauf qu'en fait, main baladeuse, c'est par exemple ce qu'a fait Gérard Depardieu de mettre sa main dans la culotte d'une jeune fille mineure et de pratiquer une pénétration digitale. C'est ça une main baladeuse, c'est un délit, c'est une agression sexuelle en fait. Du coup, on est quand même dans ce moment où on commence à se rendre compte que ben, on a des représentations qui sont complètement fausses et que y a un énorme problème d'éducation, on va dire de façon générale à la sexualité, mais en vérité au respect des femmes, au respect des enfants. Y a un énorme problème d'éducation viriliste, sexiste et misogyne. Le problème, c'est que la culture du viol, elle est en nous, elle est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est aussi pour ça que beaucoup rejettent très massivement cette notion, parce que ça oblige à un examen de conscience qui n'est pas du tout agréable, mais qui est absolument vital. Ou alors, on arrête de faire croire qu'on est pour l'égalité. si vous dites est-ce que tu es pour ou contre le viol, tout le monde va dire mais évidemment que je suis contre, c'est monstrueux, etc. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dans la tête quand on dit ça, c'est le violeur sanguinaire avec un couteau qui agresse de façon sauvage une jeune fille au fond d'un parking. C'est une image repoussante, rassurante, elle est très très loin de nous. Si par contre, comme c'est en fait la réalité statistique, c'est un proche de la victime, c'est son père, c'est son petit copain, c'est son entraîneur de son activité sportive, c'est le curé de l'église. Alors là, d'un seul coup, pourquoi ça change? Parce qu'en fait, c'est plus si loin et que ça implique en fait les relations de pouvoir dans lesquelles les adultes référents sont eux-mêmes pris. Et là, d'un seul coup, ils sont plus seulement spectateurs de la scène, ils sont aussi acteurs et actrices, et ils doivent réagir. Ils doivent surtout quoi? Faire preuve de courage et dénoncer. Et en fait, la solution de facilité, c'est toujours de ne pas voir.
Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face, prendre nos responsabilités, être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question? Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge.
Ça veut dire que on est tous et toutes entourés de personnes qui sont victimes, mais donc fatalement aussi de personnes qui sont auteurs de violences. Et que par ailleurs, du coup, ça interroge notre responsabilité. Parce que si on ne le voit pas, ça veut dire qu'on laisse faire. Donc, il faut apprendre à voir et il faut surtout apprendre à prendre ses responsabilités. Parce que le constat aussi, quand on écoute les victimes, c'est un défaut dans les prises en charge qui a à voir avec ce défaut de représentation. On parle au niveau de la procédure judiciaire de revictimisation par la procédure judiciaire. Il me semble qu'il serait plus juste de parler de réagression. Mais de la même façon, les entourages des personnes victimes, très souvent, les réagressent en ne les croyant pas, en minimisant les faits, en excusant l'auteur. On a dit que la honte avait changé de camp. C'est en cours, disons. Par contre, il y a deux choses qui n'ont pas changé de camp. C'est un, la peur. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore assez admis que beaucoup d'entre nous dans nos vies avions peur et avons peur soit depuis la position de victime, soit depuis la position de témoin, justement. Parce qu'il faut s'interroger sur les raisons qui font qu'on refuse de voir. Et très souvent, c'est parce qu'on a peur du qu'on dira-t-on, on a peur du scandale, mais surtout, on a peur d'attenter à la réputation d'homme, puisque ce qu'il faut aussi arriver à faire changer de camp, c'est la charge de la visibilité, au lieu de parler de violences faites aux femmes et aux enfants. Et parmi ces enfants, il y a des garçons. Le problème, c'est les violences commises par les hommes. Et ça ne veut pas dire que tous les hommes en commettent, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nos modèles de masculinité valorisés, autorisés et même encouragés qui promeut une certaine forme de violence et de domination. Encore une fois, les images, les représentations culturelles dans lesquelles on est baigné, et je pense, et c'est aussi beaucoup nos structures de valorisation du pouvoir, notamment dans la sphère professionnelle. Parce que ce qu'il faut interroger aussi, c'est tout ce qui va permettre les opportunités et l'impunité de ces actes, dont on sait qu'ils sont particulièrement impunis, non seulement sur le plan légal et judiciaire, mais aussi sur le plan de la réprobation sociale. Il y a une impunité pour les hommes riches, pour les hommes en position de pouvoir, qui est infiniment plus grande que celle des hommes racisés, que celle des hommes de classe populaire, qui portent beaucoup plus le stigmate, mais parce qu'il y a des représentations racistes, classistes, du personnel qui fait les enquêtes, du personnel judiciaire, qui font qu'ils vont arriver plus facilement à voir ces personnes violentes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes violentes, et à condamner le geste. Par contre, un cadre dynamique, un patron d'entreprise, on lui collera pas cette image.
Maud Beckers est avocate en droit social. Depuis 17 ans, elle défend des femmes victimes de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles au travail.
On pourrait penser qu'on puisse être à l'abri si on n'est pas en présence d'un homme qui a l'air pervers ou fou ou psychopathe à la barre. Je peux avoir des chefs d'entreprise costard cravate, très propres sur eux, mariés, avec des enfants, très respectables, comme je peux avoir des hommes moins éduqués, ça ne change rien. Et en fait, non, c'est autre chose qui se joue, c'est la domination patriarcale. Et il n'y a pas besoin d'être un psychopathe pour savoir que si on humilie sur le terrain sexuel, on muselle en fait, parce que c'est une humiliation telle que la personne ne va pas réussir à se défendre.
Plus d'une femme sur deux dit avoir subi des violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie professionnelle. Une femme sur trois déclare avoir été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail. D'après une enquête menée par le Défenseur des droits, 70% des victimes n'en ont pas parlé à leur supérieur ou à leur employeur. 30% n'en ont parlé à personne. Elles ont préféré se taire.
Alors pourquoi ont-elles du mal à parler ? Eh bien parce que tout simplement, il y a un autre chiffre qui ressort de l'étude des défenseurs des droits qui est que dans 40% des cas, lorsqu'elles parlent, ça se passe à leur détriment. C'est-à-dire que soit il y a des représailles professionnelles, dans un certain nombre de mes dossiers, des femmes qui travaillaient très bien, soudainement, après avoir dénoncé les faits, se sont retrouvées accusées d'insuffisance professionnelle ou même de fautes graves, d'insubordination. Donc il y a ou des représailles très claires de l'employeur, ou leur état de santé devient tellement dégradé qu'elles finissent par devenir inaptes au travail et sont déclarées inaptes au travail. Et puis, il y a celles aussi qui sont mutées hein, sur d'autres services. Donc, c'est une espèce de sanction déguisée au fait qu'elles ont dénoncé les faits. Et quelquefois, plusieurs trentaines, cinquantaines de kilomètres du lieu de travail initial, qui est souvent donc éloigné de leur lieu de domicile. Et donc, quand on sait que dans 40% des cas, on risque d'avoir des représailles, eh bien, on préfère en effet se taire. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que quand on parle, on a tendance à penser, les interlocuteurs, ceux qui sont accueillants des dénonciations, ont le réflexe de se dire que c'est une parole contre celle d'une autre parole et que donc la preuve n'est pas possible. Et c'est ce qu'elles pensent elles également. C'est-à-dire que si elles n'ont pas des preuves formelles, des enregistrements, des témoins directs, personne ne les croira et elles ont peur d'être confrontées au fait d'être accusées d'être des menteuses. Et le troisième levier qui les empêche de parler, c'est que cette espèce de dicton qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et que si elles ont été victimes, c'est qu'elles l'ont peut-être cherché. Et ça, ça a des conséquences non seulement dans leur vie vis-à-vis des collègues, mais il ne faut pas oublier la vie familiale aussi à côté. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi, qu'on a un conjoint, des enfants, et qu'on dit qu'on est victime de harcèlement sexuel, eh bien, il y a aussi un doute qui va pouvoir s'installer dans la tête quelquefois du conjoint. Et donc, ce sont des femmes qui se retrouvent à devoir se justifier vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de leur employeur, vis-à-vis de leur vie dans le cercle familial. Et tout ça avec une perte d'emploi à la clé. Donc oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se taisent. On va pouvoir avoir des femmes très précaires, évidemment, qui vont être les premières cibles de la difficulté de parler parce qu'elles ne peuvent pas perdre leur travail, parce qu'elles sont dans une nécessité de conserver l'outil qui leur donne leur autonomie sociale, hein, leur salaire. Souvent, ce sont des femmes isolées, issues de l'immigration, avec des problématiques de renouvellement de papiers qui sont liées au travail et des niveaux de revenus très faibles. Donc, elles bataillent en permanence. Donc, pour elles, dénoncer le harcèlement sexuel, c'est très difficile. Donc, elles sont souvent victimes de harcèlement sexuel. Mais il y a aussi une autre fragilité qui n'est pas sociale, qui peut être celle de la femme qui arrive à un moment donné dans sa carrière où elle a consacré énormément d'énergie pour en arriver où elle en est, qui ne veut pas tout perdre parce que ça fait 30 ans qu'elle évolue professionnellement et arrive le harcèlement sexuel et là elle se dit c'est pas possible que toute cette énergie-là, je la foute en l'air pour après me retrouver à 50 ans sur le marché du travail, recommencer à zéro et elles vont pas vouloir parler parce qu'elles vont pas vouloir perdre ça. Et puis, il y a aussi des femmes qui sont d'un niveau social très élevé, très reconnu dans leur milieu, mais qui sont dans un milieu, si on parle, on se grille. Les comédiennes, les mannequins, les personnes qui travaillent dans l'édition. Alors, la loi protège. La loi protège, les infractions de nature sexiste et sexuelle sont prévues et dans le code du travail et dans le code pénal, ce qui fait que et l'employeur doit faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que le code du travail lui impose que ça n'arrive pas sur le lieu de travail, donc il doit avoir ce système de prévention. Et c'est interdit dans le code pénal, donc la personne qui se rend responsable doit répondre aussi personnellement devant la société, risquer des poursuites par un procureur de la République et se faire juger devant un tribunal correctionnel. Donc la loi le prévoit. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Eh bien non, ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne beaucoup. Il n'y a que 18% des entreprises qui sont dotées d'un système de prévention dit efficace. Même les grosses structures, hein, telles que... moi, j'ai énormément de dossiers, par exemple, contre la RATP ou la Poste, où on est censé être équipé au niveau du management, des équipes RH, etc., pour pouvoir protéger les salariés, eh bien, où les dispositifs sont dysfonctionnants, où ils ne sont pas appliqués. Donc, au niveau du droit du travail, il y a une véritable carence de la part des employeurs pour protéger efficacement les victimes. Et ensuite, du côté correctionnel, c'est-à-dire est-ce qu'en droit pénal, est-ce que devant les juridictions pénales, elles sont plus protégées ? Ben non plus, parce que les taux de classement sans suite des procureurs de la République sur ces dossiers sont affligeants. Donc avant MeToo, il y avait un taux de classement sans suite de l'ordre de 94%. C'est-à-dire que sur 100 femmes qui allaient au commissariat pour déposer plainte pour du harcèlement sexuel au travail, il y en avait 94 qui n'arrivaient jamais devant un juge. Ça ne veut pas dire qu'elles perdaient à 94%. La limite qu'on perde devant un tribunal parce qu'on n'a pas les preuves suffisantes, c'est acceptable. Même si souvent, c'est discutable. Mais ça peut être acceptable après un débat contradictoire. Mais 94% des femmes avant MeToo n'avaient même pas accès au juge parce que le procureur, après l'enquête, clôturait le dossier. Hein. Maintenant, on pourrait penser qu'après MeToo, il y ait une révolution et que ce soit beaucoup mieux. Bon, bah, c'est un peu mieux, mais on reste avec 80% de classement sans suite. Donc, il y a les textes. Les textes existent, aussi bien dans le Code du travail que dans le Code pénal. Ils sont plutôt bien faits. Hein. Il y a eu beaucoup de batailles féministes pour faire évoluer ces textes. Là, on arrive à une période où ils sont plutôt bien faits. Mais que ce soit au niveau des entreprises avec cette problématique de prévention pas efficace ou au niveau des poursuites judiciaires avec ce classement sans suite, ça reste très insatisfaisant. C'est peut-être là que la loi, justement, doit être encore modifiée. C'est-à-dire que quand un employeur manque à ses obligations et qu'il y a une rupture du contrat de travail de la salariée consécutivement au harcèlement sexuel dont elle a été victime. Certes, les barèmes Macron ne s'appliquent pas parce qu'on est sur une nullité. Mais pour autant, la sanction est beaucoup trop faible. C'est 6 mois de dommages et intérêts. Mmh. Certes, c'est un minimum, les juges pourraient aller au-dessus. Mais quand on fixe un minimum à 6 mois, les juges, on sait comment est composé le conseil de prud'homme. Hein. C'est paritaire, il y a des employeurs, il y a des salariés. Donc déjà, quand on arrive à une condamnation, souvent les négociations sont rudes. Hein, derrière, dans les petites chambres derrière où il y a le délibéré, c'est rare d'avoir plus de 6 mois. Or, 6 mois de salaire, quand on pense à des entreprises comme moi, j'ai pu attaquer des gros groupes de sociétés de ménage, par exemple, qui ont des salariés qui sont à temps partiel ou quand elles sont à temps plein, qui sont au SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire, 6 mois de salaire ? Est-ce que c'est une condamnation suffisante pour avoir envie ensuite de mettre en place une politique de prévention qui, elle, va coûter plus cher que les condamnations prud'homales ? Par contre, le gros problème, c'est que la justice, comme beaucoup de services publics, est maltraitée, de plus en plus. La justice dysfonctionne et les délais de justice sont extrêmement longs. Donc, une femme victime de violences sexistes et sexuelles sur son lieu de travail, quand elle vient me voir au cabinet et qu'elle me dit on en a pour combien de temps, je suis obligée de lui dire on peut en avoir pour 5 ans. Entre la procédure prud'homale et la procédure de la cour d'appel, en région parisienne, ce sont les délais. Après, il m'arrive de plaider ailleurs. Par exemple, je suis allée plaider à Brest. Les délais ont été beaucoup plus courts. Mais un certain nombre de juridictions sont saturées. Donc, c'est le premier frein. Hein, elles vont avoir du mal à tenir sur la longueur. Et ça va être... c'est une souffrance. Deuxième difficulté devant ces juridictions sociales saturées, c'est que le stock de dossiers est tellement important à gérer pour peu de greffiers et peu de magistrats, les audiences ne ressemblent plus à rien. L'oralité qui était si importante et qui est défendue par les syndicats, par les avocats militants, l'oralité devant les juridictions, c'est le moment où se reconstruisent les salariés. Mmh. Elle n'existe quasiment plus. Au Prud'homme, en région parisienne, maintenant, on nous sort quelquefois le téléphone portable sur le bureau des magistrats. Quand on plaide, on sait qu'ils enclenchent, si on en a pour 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, si on a de la chance, pour des dossiers de discrimination et de violence sexuelle, vous imaginez la nouvelle violence judiciaire que ça représente. Mmh. Bon. À la cour d'appel, c'est pire, la procédure a changé. C'est une procédure écrite désormais. Mmh. Une procédure écrite qui fait que les magistrats nous incitent à déposer les dossiers. Et quand on veut plaider un dossier, on nous impose aussi 10 minutes. Donc voilà le parcours judiciaire qui n'est pas du tout restauratif pour les victimes. Et au tribunal correctionnel, eh bien, la difficulté que je vous indiquais, c'est que dans 80% des cas, les dossiers sont classés sans suite. Au pénal, c'est pas beaucoup poursuivi. Peu de femmes arrivent jusque-là. Mais la première chose à faire, c'est un budget suffisant sur la justice pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, quelque chose sur lequel c'est beaucoup plus difficile d'agir, c'est que les policiers, les magistrats, les conseillers prud'hommes sont des personnes qui vivent dans la société encore marquée par les dominations, les discriminations, encore marquée par le patriarcat. Et donc les réflexes qu'ils vont avoir ne vont pas forcément être des réflexes d'hommes de loi ou de policiers qui vont voir le dossier à travers de ce qui est interdit, mais à travers de ce que eux imaginent être interdit. Qu'est-ce que c'est du harcèlement sexuel par rapport à l'humour? Qu'est-ce que c'est de la drague par rapport au harcèlement sexuel? Parce qu'ils vivent dans une société sexiste qui ne les a pas éduqués. Hein. Et puis il y a aussi le problème de formation. Enfin moi, je suis allée dans un commissariat une fois, et cette fois-ci à titre personnel, puisque j'avais réagi à une réflexion sexiste dans un TGV et je me suis pris une baffe en retour. Donc à titre personnel, j'ai connu aussi le fait d'aller déposer plainte, et quand j'ai dit aux policiers je voudrais qu'il soit marqué qu'il y a une circonstance aggravante, parce que qu'il m'a dit au moment où il m'a donné cette gifle en me disant si tu avais été un mec, ça aurait été pire, ou tais-toi, tu parles comme un mec. Je dis je veux que la circonstance aggravante de l'infraction sexiste soit notée. Et il m'a regardé avec un air étonné en me disant ah bon, c'est une circonstance aggravante, mais on en apprend tous les jours. Je lui dis oui, sachez que la circonstance aggravante de racisme existe aussi, donc faites attention pour la prochaine fois. Enfin, voilà, il y a un problème de formation. Il n'était pas du tout de mauvaise composition de ce policier. Hein. Il était content de l'apprendre. Mais combien d'autres dossiers sont traités par des petits commissariats de quartier débordés, avec des moyens insuffisants, avec des policiers pas du tout formés? Après, je ne jette pas le discrédit sur toute la police, mais un profil de policier pour qui ce n'est pas du tout la priorité de lutter contre les violences sexistes et sexuelles.